Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui.
Et oui, on a l'impression que c'est une grande mode depuis, on va dire, 2 ans, 3 ans, et tant mieux. On parle de la petite entreprise, on parle de la PME, les banques s'y sont mis, le gouvernement s'y est mis. Allez, de différentes manières, ça on pourra en discuter bien évidemment. Des mesures sont censées être prises, les assises de la fiscalité arrivent, on en attend beaucoup par rapport justement à la fiscalité liée à la petite et moyenne entreprise. Et tout cela baigne dans un virage digital dont on parle extrêmement souvent. Et la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est comment tirer parti de la digitalisation et surtout accélérer l'inclusion financière, parce que là aussi on va parler du taux de bancarisation dont on parle très souvent dans les experts, et bien pour aider la TPE. Et tout cela pourquoi un seul but, c'est faire émerger l'économie. On peut aller loin comme ça, bien évidemment. Et cette émission est un peu spéciale aujourd'hui parce que elle est organisée dans le cadre du Forum international de la très petite entreprise qui a lieu aujourd'hui toute la journée jusqu'à la fin de la journée. On vous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Spécial TPE, inclusion financière, transformation digitale, 10h10, voici vos experts.
Les experts atlantiques.
Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans les experts. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou réagir sur la page Facebook des experts comme d'habitude, même si aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. Elle se déroulera en deux parties. On va avoir 5 personnes qui vont se succéder. 3 personnes pour la première partie de 10h à 11h. Et puis tout à l'heure à 11h à midi, de 11h à midi, on aura 2 autres personnes, mes experts qui sont avec moi aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir à les recevoir. Madame Imen Benzarwal, qui est adjoint au directeur exécutif de la FMEF. La FMEF, c'est la Fondation marocaine pour l'éducation financière. Et justement, si vous allez parcourir les pages de l'Économiste aujourd'hui, il y a un article sur qui parle de vous, de la Fondation, et puis bien entendu de l'inclusion financière. On reviendra dessus parce que c'est extrêmement important. Monsieur Mamadou Lamine Gueye, directeur général de Cori Microfinance. Il nous vient du Sénégal. Comment ça va?
Oui, je vais bien, merci.
Langadef.
Santé Allah, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et ça va nous permettre de varier un peu les visions, de d'ouvrir le sujet à l'Afrique, même si nous sommes en Afrique. Beaucoup de gens ont du mal à se rendre compte qu'on est en Afrique. C'est pour ça important de le ressouligner à chaque fois. Et Nizar Abdellaoui est avec moi. Comment ça va?
Merci Faisal.
Tu présentes ta start-up?
Oui, alors ma startup, on est une nouvelle startup qui a démarré au mois de janvier et on a l'ambition de transformer l'expérience d'achat-vente de voitures d'occasion. Ouais. On s'inscrit, et on remercie d'ailleurs le Forum international et l'agence Maroc PME de nous avoir invités puisqu'ils nous accompagnent dans cette aventure depuis le mois de janvier.
Alors vous voyez, on a aujourd'hui une fondation qui s'occupe de l'éducation financière, on a un acteur de la microfinance au Sénégal et puis on a un start-upper. Alors ça nous permet de parler d'un écosystème. C'est toujours important d'avoir des gens différents et qui montrent ce que c'est que l'écosystème et à quoi ça sert. Parce qu'à chaque fois, quand on reçoit des institutionnels, c'est très bien, mais quand on a que des institutionnels qui parlent du même sujet, on a du mal à faire les connexions entre toutes les interactions qu'il peut y avoir entre ce que vous faites vous au quotidien, ce que vous également vous faites en termes d'éducation financière, parce que c'est un terme qui revient. Je pense qu'on va beaucoup parler de vous dans les mois à venir. Beaucoup de gens vous connaissent pas, et ça c'est, il faut le dire encore une fois, l'éducation financière. Lorsque nous dans cette émission, dans les experts, je sais pas si vous nous suivez, mais on fait de l'éducation fiscale, ça fait des années qu'on le fait, parce que il y a des gens qui découvrent qu'il faut qu'ils payent des impôts alors qu'il a toujours fallu en payer, mais voilà, comme les commerçants, mais sans rayonner. Beaucoup de choses à dire. 10h13 dans les experts. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts. Alors, moi je vais déjà commencer par vous, Imen, donc la Fondation marocaine de l'éducation financière. Moi, je regarde juste des chiffres qu'il y a dans les pages de l'Économiste aujourd'hui. On parle d'inclusion financière parce que ça aussi, ça fait partie du gros sujet du forum qui a lieu aujourd'hui. Comment faire en sorte que les gens rentrent dans le système? Tout simplement, parce que l'inclusion financière, c'est quoi? C'est que les gens aient accès à un compte bancaire et accès aux services bancaires et avec tout ce que ça implique derrière, à savoir accès au crédit, accès au financement et donc pouvoir investir, donc pouvoir devenir entrepreneur. Voilà, c'est toute la chaîne aujourd'hui. Et quand on regarde, ce sont des chiffres de Findex 2017, c'est 29% des adultes qui sont titulaires d'un compte bancaire au Maroc. D'accord. Alors quand vous avez le chiffre de Banque El Maghrib de taux de bancarisation qui est d'à peu près de 70% ou 65%, on le répète encore une fois, c'est un chiffre brut du nombre de comptes divisé par la population. Donc ça veut rien dire, ça compte aussi les comptes les entreprises, double les doubles comptes, vous avez des entreprises qui peuvent avoir une dizaine, une vingtaine de comptes, des gens qui ont deux ou trois comptes, etc. Mais par contre là, ce chiffre, il est édifiant. C'est moins d'un tiers des adultes, donc on exclut bien sûr les enfants et les gens qui ne sont pas bancarisés pour des raisons évidentes, qui sont bancarisés. Et ça, ce chiffre-là, eh ben, ça doit vous dire que vous avez du boulot là. Iman.
Oui, effectivement, on a beaucoup de boulot et voilà, désolé. Alors, tout d'abord, je vous remercie Faisal de l'invitation. Je vous remercie au nom de la Fondation marocaine pour l'éducation financière, le forum de la TPE, de cette invitation auquel nous avons plaisir de prendre part en tant que fondation. Et je remercie vos chers auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute de l'émission. Effectivement, nous avons beaucoup de boulot, nous en sommes conscients. Et ce n'est pas pour rien que notre plan stratégique 2019-2023, plan stratégique de la Fondation, s'inscrit dans le cadre de ce contexte national marqué par l'annonce de la stratégie nationale d'inclusion financière qui a identifié d'emblée l'éducation financière comme pilier transverse fondamental de toute la stratégie du pays en matière d'inclusion financière. Donc c'est dire l'importance du boulot qui nous attend pour justement permettre à tout citoyen, particulier ou professionnel, d'avoir les aptitudes financières nécessaires pour justement prendre les bonnes décisions financières, pour accéder aux services financiers et les utiliser à bon escient en ayant connaissance des risques, des responsabilités, mais surtout des opportunités économiques et financières que les services financiers peuvent lui apporter.
Alors c'est vrai qu'on peut se dire éduquer financièrement. Bon, déjà il faut financer l'éducation, mais ça c'est une autre histoire. Mais éduquer financièrement, c'est aussi, on va se dire, mais c'est par rapport à des gens qui ont des moyens. Et ça c'est une vraie question aujourd'hui de se poser. Lorsqu'on a ce chiffre-là, ça nous renvoie tout de suite vers l'informel, bien évidemment, parce que 30% des adultes qui sont bancarisés, ça veut pas dire que 70% des adultes n'ont pas d'argent ou n'ont pas les moyens. Il y en a une grosse partie, il y a bien évidemment, on connaît la réalité de notre pays, mais il y en a aussi une grosse partie qui ne font pas partie du système pour des raisons extrêmement on va dire réfléchies et voulues. Moi, je voudrais juste avoir l'avis de Mamadou Lamine, parce que c'est vrai qu'au Sénégal, j'imagine qu'il y a, je connais pas le chiffre, moi sous les yeux j'ai les chiffres de la Tunisie, nous on est à 29%, en Tunisie c'est 37%, et dans toute la zone MENA dont on fait partie c'est 44%, donc on est loin, hein. On est très loin, au Maroc, hein. Voilà, on est très loin au Maroc, hein. Oui. Sortons de l'axe Casaraba, Marrakech, etc., des belles bagnoles et du Maroc moderne, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la finance.
Posez vos questions, 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, émission un peu spéciale aujourd'hui, on parle d'inclusion financière, on parle des petites entreprises aujourd'hui sur le plateau avec moi, Mamadou Lamine Gueye, directeur général de Cori Microfinance qui nous vient du Sénégal, Iman Benzaroué, adjoint directeur exécutif de la Fondation marocaine pour l'éducation financière, et Nizar Abdelaoui, start-upper, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, Mamadou, je vous posais la question justement par rapport à ce qu'on a entendu, les chiffres qu'on a en termes d'inclusion financière. Au Sénégal, on a les mêmes problématiques dans des proportions différentes.
Oui, tout à fait, Monsieur Faisal. Mais permettez-moi juste de profiter de cette opportunité pour remercier le Forum international de la TPE. À travers Madame Amal Sherif Aout, qui a bien voulu m'associer à cet événement que je trouve extrêmement important. C'est une opportunité pour moi d'échanger une expérience, mon expérience du Sénégal, mais aussi d'échanger et de prendre quelque chose aussi du Maroc. J'en profite aussi pour saluer le peuple marocain, dans son ensemble, et dire que je suis très content d'être là ce matin.
Ben on est très content que vous soyez avec nous également. Hein.
Voilà, pour aller dans le vif du sujet.
Qu'est-ce qu'il y a comme gentillesse ce matin?
En tout cas... Hein.
Des petits papillons dans le studio. C'est bien. Non mais c'est bien. Ça fait du bien en ce moment. On dit tout le temps qu'il faut passer de l'économie de la méfiance à l'économie de la bienveillance. Et ben ça commence par ici.
Merci
voilà.
beaucoup.
Allez-y.
Alors, pour venir dans le vif du sujet, pour dire que la situation du Maroc n'est pas très différente de la situation au Sénégal. Alors, si vous savez, en 2016, le Sénégal a conduit une enquête. C'est une enquête sur l'inclusion financière des ménages. Et l'enquête a révélé que si on prend en compte les banques, les institutions de microfinance, le taux bancarisation brute se trouve autour de 22-23%.
Brut.
Oui.
Ça, c'est vraiment le nombre de comptes sur la population.
Voilà.
Hein.
Au niveau des banques
d'imaginer.
Et au niveau des institutions de microfinance.
Ah, mais ouais.
Alors, voyez tout de suite. Mmh. Alors, et si on intègre maintenant, si on intègre les émetteurs de monnaie électronique,
les établissements de paiement,
cash, établissements, excès de transfert d'argent, on peut se retrouver facilement à plus de 40%.
Voilà.
Alors, pour dire tout de suite que la voie royale pour régler cette question d'inclusion financière, ce sera la digitalisation. Mmh. Parce que avec le téléphone mobile, aujourd'hui, on est capable de faire énormément de choses. Mais pour rebondir sur tout à l'heure les explications de Madame Iman, alors je dirais que l'éducation financière, pour moi, elle est fondamentale. Justement, vous dites, il y a une bonne partie de la population qui ont des moyens, mais pourtant qui ne vont pas à la banque.
Ils veulent pas y aller. Hein.
Mais parce que, justement, ils n'ont pas reçu cette éducation financière. Parce qu'il faut savoir qu'il ne s'agit pas de thésauriser l'argent. L'argent doit être fructifié, quelle que soit la situation où on se trouve. Soit on le met en dépôt, soit on s'endette pour développer son activité. Et ça, c'est d'autant plus important pour les très petites entreprises. Je crois que c'est des opérateurs économiques qui n'ont pas toujours tous les moyens nécessaires pour développer leur talent. Et c'est toute la pertinence de ce forum sur la TPE pour qu'on trouve ensemble les voies et moyens pour leur donner les ressources nécessaires.
Alors,
pour justement exprimer ce talent-là.
Alors, on va revenir, parce que c'est vrai que quand on parle de ça, vous savez, on en parle depuis très très souvent, et dans les experts, on a cette chance d'avoir cette remontée du terrain sur différents secteurs, que ça soit sur la fiscalité, que ça soit sur l'informel, que ça soit sur l'inclusion financière, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on prend ces problèmes-là en grand bloc, en éludant toutes les sensibilités, toutes les nuances de gris qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Mais on y reviendra, parce que ça aussi, parce que la fiscalité, là, elle est extrêmement importante, hein, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas et qui ne le feront pas, même si vous leur donnez la plus grande solution digitale du monde, qui ne voudront pas être tracés et qui ne voudront pas savoir ce qu'on fait de leur argent. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui, et comment le régler. Alors, moi, je veux revenir aussi, dans l'écosystème-là, on a un start-upper, et justement, qui est basé sur le digital. Et toi, ton business, tu es obligé d'avoir des gens qui sont digitalisés et qui sont également... qui font partie du système bancaire, qui ont accès à des moyens de paiement qui soient modernes et identifiés. Et ça, c'est une question que je te pose. Le marché que tu as, il est limité. Et toi, aujourd'hui, un marché avec s'il y avait plus d'inclusion financière, nécessairement, ça impacte sur le marché que tu adresses.
Alors, absolument. Alors, pour faire le parallèle avec notre activité, alors moi, il y a deux constats qui m'ont un peu frappé depuis le démarrage de cette aventure. Ouais. Parce que déjà, d'une part, même les gens qui sont bancarisés vont préférer des paiements en cash.
Ouais.
On vend des voitures qui vont entre 50 000 et 400 000 dirhams. La personne qui encaisse 400 000 dirhams demande à avoir cet argent en espèces.
Non mais voilà.
Avec tous les risques liés à la sécurité de la personne physique qui peut y avoir.
Non mais c'est déjà risque, et en plus les gens, on parle d'éducation financière, les gens savent peut-être pas, ou alors les banques jouent pas le jeu encore, qu'il y a une loi anti-blanchiment et que vous déposez un certain montant.
Absolument.
Que vous déposez à la banque est censée faire une alerte. Mais ça, il y a très peu de gens qui le savent. Ouais.
Absolument. Et puis il y a un deuxième point qui est le financement. Aujourd'hui, les gens s'éloignent du crédit bancaire. Donc ça, c'est aussi une autre grande interrogation, pour des raisons religieuses ou des raisons de confiance dans les institutions. Les gens préfèrent payer avec leurs moyens, quitte à prendre, entre guillemets, un prêt auprès de d'institutions non formalisées, c'est-à-dire des amis, de la famille ou d'autres types de sociétés. Maintenant, pour revenir à notre activité, effectivement, aujourd'hui, ce qui aurait été un gros avantage pour nous, c'est que nos différents interlocuteurs, donc par exemple des mécaniciens ou des intermédiaires d'achat-vente de voitures d'occasion qui travaillent aujourd'hui dans l'informel, puissent passer ou accéder, donc travailler de façon plus formelle, donc s'inclure dans le système financier, notamment à travers l'auto-entrepreneur.
Oui.
Le régime auto-entrepreneur qui leur facilite ces choses-là. On y travaille. Mmh. On y travaille avec, notamment avec l'agence Maroc PME qui nous soutient dans ce sens, mais c'est pas facile. Un travail d'éducation, effectivement. Il faut leur montrer l'intérêt. L'intérêt pour le client final.
Moi, je pense que toutes les discussions, et je pense que même les discussions qu'on aura au forum cet après-midi, doivent tourner autour de ça, au lieu d'avoir des constats, de savoir est-ce qu'on sait pourquoi et auprès de quel type de population particulièrement. Est-ce que ce sont des raisons religieuses? Est-ce que ce sont des raisons fiscales? Est-ce que ce sont des raisons au-delà de la fiscalité, de traçabilité, tout simplement? Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être pistés. Il y a aussi le syndrome du mqaddam, quoi. Je sais pas, on n'a pas envie qu'on nous mqaddamise l'argent. Non, mais c'est, franchement, j'ai l'impression qu'on ne va pas dans cette sensibilité-là pour essayer de voir d'où ça vient, ce manque d'inclusion financière. Vous avez déjà fait ce travail, j'imagine. Vous avez dû faire des études sur le terrain.
Oui, effectivement. Ouais. Donc, juste un petit rappel, c'est que dans les programmes d'éducation financière qui soient adressés aux particuliers ou aux professionnels, notamment la petite ou la toute petite entreprise, l'objectif final, c'est de doter ces personnes bénéficiaires de ces compétences, les compétences financières, de les doté de la confiance nécessaire pour aborder la chose financière, pour aller vers le système financier et choisir les services financiers qui vont leur permettre de se développer. Ça, c'est dans la théorie, vous allez me dire.
Ouais.
Maintenant, dans la pratique, pour les entrepreneurs, pour pouvoir les approcher, les inclure justement à travers les programmes d'éducation financière, la Fondation avait lancé une étude en fin 2017, et dont les résultats ont été publiés en 2018, sur 1000 études qui avaient couvert plus de 1000 entrepreneurs, TPE, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs et même AGR. Et la moitié, presque la moitié des personnes interviewées n'avaient pas de compte bancaire justement et n'avaient pas
l'intention d'en ouvrir.
En fait, ne voyaient pas l'intérêt d'avoir ce compte bancaire, n'avaient pas conscience justement de l'importance de la transparence pour s'inclure justement et pouvoir bénéficier des financements qui allaient leur permettre de se développer, de développer leur entreprise.
Oui.
Donc c'est
encore faut-il qu'ils aient accès au financement. Ça, c'est une grosse question aussi.
Justement, le but, c'est de les aider à accéder. Je vous assure que plus de la moitié, presque la moitié n'avait pas de compte bancaire. Mmh. Mais ce qui était frappant, c'est qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser pour demander les financements. Mmh. Quels seraient les financements, justement, nécessaires pour l'entreprise, que ce soit à l'étape de la création, selon les étapes de vie de leur entreprise. Ils n'avaient pas idée sur quels sont les organismes d'appui à l'entreprise, les organismes qui sont prêts à qui font de l'accompagnement de l'entreprise, qui peuvent donner justement les aider dans tout ce qui est dans tout ce qui pour avoir la garantie du financement.
Alors aujourd'hui, il y a des mécanismes.
Donc tous ces mécanismes qui existent, malheureusement, ne sont pas connus de tous. Et là, vraiment, c'est vrai que l'éducation financière s'adresse directement à la personne, mais il faut que des relais. Et nous comptons beaucoup sur la presse, les organes de presse, les qui font, qui vous le faites régulièrement dans votre émission.
On essaye. Hein.
Mais il faut, il y a un grand effort d'information et de communication pour justement permettre à ces personnes
de rentrer
dans le système.
Posez vos questions 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, il est 10h35, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Si vous venez de rejoindre, sachez que c'est une émission un peu spéciale puisqu'on parle d'inclusion financière. Aujourd'hui, on parle de la TPE, de la très petite entreprise. Et c'est dans le cadre du Forum international de la très petite entreprise qui a lieu aujourd'hui jusqu'à ce soir. On commence à en parler aujourd'hui, enfin ce matin, et on continuera à en parler cet après-midi avec des institutionnels, avec des entrepreneurs, avec des gens qui sont impliqués dans l'écosystème. Et c'est de parler vrai, hein, c'est de sortir des concepts pour essayer de comprendre vraiment les pourquoi du comment et comment faire en sorte que il y ait une population plus grande qui ait accès au système financier pour qu'il puisse être pour que voilà on soit dans une économie circulaire, une économie qui soit inclusive voilà pour tout le monde. Mais après la vraie question est-ce que le système financier est adapté à ces petites entreprises, est adapté à cette population qui n'est pas compris dans le système financier, ça aussi c'est une vraie remise en question à faire à ce niveau-là pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Aujourd'hui sur le plateau, on est ensemble jusqu'à 11h pour cette première partie de l'émission avec madame Imed Benzaloua, l'adjointe au directeur exécutif de la FMEF, c'est la Fondation marocaine pour l'éducation financière, monsieur Mamadou Lamingue, directeur général de Cori Microfinance Sénégal, et Nizar Abdellaoui, start-upper qui nous explique ce qu'il fait tous les jours, c'est de l'intermédiation à valeur ajoutée à travers le digital sur le marché du véhicule automobile. Ça, si je dois résumer, c'est ça ?
En quelques mots, c'est ça.
Ouais, voilà. Je suis obligé de synthétiser à la radio, on a très peu de temps. Donc c'est pour ça, après, on verra de quelle manière tu te débrouilles. C'est vrai que ça aussi, c'est important pour aussi montrer le dynamisme de certaines startups. Mamadou, je voulais vous poser la question sur la microfinance. Parce qu'aujourd'hui, la microfinance existe chez nous, bien évidemment. C'est un mécanisme qui a permis justement d'éduquer au forceps une des populations qui ne voulait pas être inclue financièrement en allant vers des petits montants. Mais ça fonctionne, la microfinance, et notamment au Sénégal. Moi, je vous parle...
Oui, je voudrais, Monsieur Faisal, si vous le permettez, auparavant, de revenir sur des aspects qui me semblent extrêmement importants.
Oui, allez-y.
Vous-même, chaque fois que vous prononcez le mot écosystème,
oui,
je pense que c'est le mot, c'est vraiment le cadre qu'il faut. Il faut un écosystème. Ça suppose qu'il y ait des acteurs de compétences diverses qui se complètent pour faciliter et développer l'inclusion financière. Tout à l'heure... Madame Iman l'a évoqué, hein, et en discutant la semaine dernière avec les équipes justement de Madame Amal Sherif Awad, je leur disais que il faudrait qu'il y ait des institutions qui s'occupent de renforcer les compétences financières, comme le fait Madame Amal. Mais il faut aussi des acteurs qui s'occupent d'améliorer les compétences techniques de ces TPE-là. Mais il nous faut aussi que dans les institutions de microfinance, qu'il y ait de la diversification. Tout à l'heure, en parlant des raisons qui font que les opérateurs ou les populations ne vont pas vers les banques, vous avez évoqué la religion.
Oui.
Mais dans la diversification, la finance islamique a une place importante à jouer.
Ah bah oui,
mais ça... C'est en train de prendre sa part.
On peut vous en parler beaucoup ici de la finance participative. Vous allez voir.
Il faut qu'on y croit et qu'on travaille dans ce sens pour inverser la tendance, surtout dans des pays où les populations sont en majorité musulmane. C'est le cas au Sénégal, où nous avons 95% de musulmans. Je ne vais pas revenir sur ce que dit le Coran sur la finance classique, etc. Alors, pour dire cette diversification...
Non, s'il vous plaît, parce que c'est pour ça que nous, chez nous, c'est la finance participative. Hein. Le Maroc a bien choisi cette dénomination.
Mais j'aime bien, d'ailleurs, au Sénégal, d'ailleurs, la dénomination islamique pose problème.
Oui.
Mais participatif, moi-même, j'ai fait partie des gens qui ont proposé ce terme. Pour dire diversifier, mais diversifier doit s'accompagner par forcément de la digitalisation. Tout acteur qui veut s'inscrire en marge de ce mouvement risque d'être laissé en rade et pour longtemps. Alors vraiment, c'est cet aspect que je voulais préciser avant de revenir particulièrement sur la microfinance au Sénégal. J'ai dit nous avons 23% environ de la population, mais les 15%, c'est le fait d'institutions de microfinance.
D'accord.
Nous en avons 303 institutions de microfinance.
Donc si on enlève la microfinance...
Mais il ne reste que 6-7%. 6%. 6-7%.
Oui. C'est dramatique. Mais ça sont des chiffres qu'il faut écouter et vraiment prendre avec beaucoup de recul, avec beaucoup de perspective. Et vraiment, ce sont des chiffres qui sont édifiants. Hein.
Mais 25 banques.
Et on est au Sénégal. Hein.
Oui, 25 banques toutes les banques comprises ne font pas plus de 600 000 bénéficiaires.
Elles se partagent 600 000 personnes.
Environ 600 000 clients.
C'est un marché de 600 000 clients.
Oui, et c'est des clients qui sont ici, qui sont là-bas, qui sont ailleurs, qui papillonnent.
Oui.
Donc s'il n'y avait pas c'est la microfinance avec plus de 3 millions de clients membres de ces institutions de microfinance. Mmh. Vous voyez, plus de 510 millions d'euros d'épargne, 670 millions d'euros de crédit.
Mmh. Vous
voyez, avec une production annuelle qui se situe autour de 200 millions d'euros. Et c'est énorme.
Et on a un taux moyen du crédit accordé qui est de combien? Le ticket, enfin pas le ticket, le financement accordé est moyen, il est de combien?
Alors, si on prend au niveau national, oui. Ça tournerait autour de 300 000. 300 000, c'est... Alors, en euros, c'est fa.
Oui.
Oui. C'est plus de 200. C'est 500 euros. Voilà.
500 euros.
500 euros.
Voilà.
Le prêt moyen.
Ouais, ouais. Le prêt moyen, 500 euros.
Ouais. Pour dire un peu aussi que les institutions de microfinance s'inscrivent sur le segment à la base vraiment de la pyramide, où les populations ont de très faibles revenus, mais aussi des revenus qui sont irréguliers.
Alors, moi, j'ai une question et je la pose à tous les deux. Après, on reviendra sur ta start-up, bien évidemment, même si tu veux rester après, hein, parce que c'est vrai que je sais, dans l'inclusion financière, c'est intéressant de faire le lien. Mais inclusion financière, tout cela, et on a quand même un objectif, c'est qu'on ait une élévation du niveau de vie, du pouvoir d'achat, qu'il y ait de l'émulation dans les projets, qu'il y ait de l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que la microfinance... Avec le recul, est-ce qu'on voit vraiment des choses émerger ou alors c'est du vivotage? Je suis désolé de parler comme ça parce qu'au début on se dit ok, c'est au début de la microfinance on se disait ok, c'est de la charité déguisée ou de l'achat de paix sociale déguisée. Mais après on a eu des exemples de réussite dans certaines régions. Mais est-ce qu'on a vu vraiment une ascension par rapport à certaines populations qui ont pu vraiment créer des entreprises alors que si elles n'avaient pas eu accès à la microfinance, elles seraient encore dans une autre situation totalement différente.
Mais tout à fait, tout à fait. Moi j'ai des cas de succès, des dizaines de cas. Je vous donne l'exemple parce que notre institution Cori Microfinance travaille en particulier avec les femmes,
oui.
Les groupements de femmes.
Ben, alors, c'est souvent le cas même ici. Hein.
Voilà. Nous avons une femme qui a démarré avec 30 euros. 30 euros en 2002. 30 euros en 2002. Mmh. Aujourd'hui, avec 15 000 euros, elle nous dit qu'elle n'en a pas assez pour mener correctement ses activités.
D'accord.
C'est juste une image. Voyez quelqu'un en 10 ans qui quitte de 30 euros à 15 000 euros. Mmh. Elle a commencé par vendre des petits morceaux de poissons séchés.
Mmh.
Aujourd'hui, elle a des cantines, elle a des magasins de tissus de luxe. Elle gère des magasins de vente de produits alimentaires. Une femme qui démarrait, elle n'avait rien. Aujourd'hui, elle a un troupeau de vaches. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est quel est l'impact sur les familles. Il y a une amélioration des repas, aussi bien en quantité qu'en qualité. Plus de poissons fumés, plus de poissons séchés. Et parfois même, on se paye le luxe d'avoir un poulet en truc. Vous voyez? Donc, c'est un peu cet impact-là qui est intéressant dessus. Et nous avons, j'ai dit, des centaines de femmes qui sont parties de rien du tout. Personne n'avait confiance en elles. Et aujourd'hui, elles prennent de l'autonomie, elles prennent de la responsabilité. Et en témoignage, elles vous disent, nos ménages se sont stabilisés.
Alors,
parce que justement, elle ne demande plus tout au mari. Elle contribue largement dans la prise en charge du ménage.
Alors, je vais faire un saut parce que, encore une fois, c'est pour connecter la finalité de tout ça, parce qu'on parle de financement. Je vais vous lire quelques réactions et après, je te passerai la parole parce que, baignant dans tout ça, et j'ai Mohamed qui nous dit, vous parlez des banques comme sauveurs de l'humanité. J'adore ça parce que c'est vrai que... Non mais, rappelons que les banques sont des organismes privés à but lucratif et que l'endettement est un outil d'asservissement aussi bien des hommes que des États. Bon, alors on peut avoir cette vision des choses, c'est-à-dire que avoir accès au financement, c'est avoir accès à la dette, c'est avoir accès mais plus on est petit comme disait Coluche, c'est moins tu peux payer, plus tu payes. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, on peut avoir des réactions comme ça qui sont intéressantes. J'ai Delis qui nous dit aussi, vous parlez d'inclusion, des volontés d'inclusion financière et la non-compréhension du taux de bancarisation. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a aussi un lien avec les taux et les frais financiers appliqués par les banques qui sont très élevés? Ne parlons même pas des conditions d'éligibilité des crédits qui sont aléatoires. Quand j'ai dit à des copains qui sont entrepreneurs, j'en ai beaucoup autour de moi, qui ont des petites entreprises, qui ont des petites et moyennes entreprises, et qui disent, ah bah tiens, tu vas animer tel forum sur la TPE, sur le financement des TPE, sur on ne fait que parler de ça, etc. Et qui me raconte ses déboires avec sa banque, qui rechigne à débloquer des financements sur des projets qui sont absolument bankable sur une entreprise qui existe depuis longtemps. Il me regarde dans le blanc des yeux, il me dit, mais mon vieux, mais arrêtez de discuter, parce qu'il y a un moment, ça suffit, quoi. Il faut que ça soit dans les faits. Start-upper, t'as eu de la difficulté à financer? Parce que je te pose la question de manière très claire, parce que là aussi, il faut le dire, est-ce que t'as du mal? Est-ce que tu tombes dans ton business model? Une start-up, c'est une entreprise comme une autre, mais qui est censée avoir un cycle de croissance exponentielle, donc il faut financer à un moment donné. Est-ce que tu as eu du mal à avoir financement? Et est-ce que tu penses que tu auras du mal à financer ta croissance? Parce qu'à un moment donné, il faudra bien que tu grandisses.
Alors, j'aimerais juste revenir sur le sujet de l'inclusion financière. Et là, je pense qu'il y a un aspect culturel qui est très fort au Maroc. C'est le constat que j'ai fait. Avant de démarrer ma start-up, Kifa, tout le monde me disait, mais est-ce que tu vas déclarer tes employés?
Oui.
Je disais, ben oui, spontanément, ils vont travailler.
Ouais, ça, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération.
Parce que c'est l'état d'esprit avec lequel je suis revenu au Maroc. On me dit, mais est-ce que tu sais que tu vas payer des charges sur ces employés? Et les charges, ça coûte cher. Et en fait, absolument pas. Il y a des dispositifs qui sont mis en place par l'État. Donc, par exemple, l'ANAPEC, la CNSS, qui prennent en charge une partie des charges patronales et qui permet à tout le monde de travailler dans la légalité.
Au début.
Et de s'intégrer effectivement pour soutenir les jeunes entreprises, soit des jeunes salariés. Ouais. Et tout ça pour dire que ça permet de contribuer à l'inclusion financière, puisque ces gens-là doivent ouvrir un compte bancaire pour être en mesure de recevoir leur salaire. Maintenant, pour revenir sur le financement, effectivement, le premier jour, alors pour la petite histoire, alors moi qu'on est dans l'automobile, je voulais acheter une voiture. Et donc, je vais voir ma banque et je lui dis que je veux un leasing directement m'envoyer balader. Je pense que ça a duré 30 secondes. 30 secondes, j'ai claqué la porte et j'ai fait demi-tour.
Pourtant, c'est bizarre. Les banques financent beaucoup plus facilement des voitures que des fonds de roulement. Hein. Je te le dis sincèrement.
Mais on m'a demandé de ramener le bilan des deux dernières années, chose que je n'ai absolument pas, puisque la société venait d'être créée.
Les revenus de ton papa, de ta maman, le terrain qui est à côté, le concierge, tout le monde.
C'est ça, les anciennes fiches de tête. C'était un casse-tête. Finalement, je me suis débrouillé autrement, comme font la plupart des gens.
Oui.
Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place par l'État pour aller dans ce sens. Il y a la CCG qui impose, donc il y a un fonds de dépôt de garantie,
centrale de garantie
de l'État, qui permet de financer les start-up entre 100 000, à partir de 100 000 dirhams jusqu'à plusieurs millions selon
les statuts. Il y a un fonds Innovinvest, il y a beaucoup de fonds qui ont été annoncés, qui sont annoncés encore, oui.
Tout le monde n'est pas au courant, tout le monde n'a pas le courage d'aller les chercher, mais il y a des choses qui sont mises en place, et moi je pense qu'il faut en profiter au maximum. Surtout que, et là où j'ai été très agréablement surpris, c'est que les interlocuteurs au niveau de l'administration, qui sont souvent assimilés à des personnes entre guillemets vieux jeu ou avec un état d'esprit old school, c'est pas, absolument pas le cas, c'est des gens qui sont au contraire très favorables.
Non, mais l'administration marocaine aujourd'hui, elle est à l'image de notre pays.
Et en pleine transformation.
Il y a une population qui est jeune, très à la page, etc. Et puis versus un autre fonctionnement qui est d'arrière-garde, etc. Ben c'est la société comme ça. Imane, vous voulez réagir?
Oui. D'abord, par rapport à l'écosystème, merci de l'avoir rappelé. Effectivement, l'inclusion financière, il y a une volonté nationale de tous pour aller de l'avant et pour permettre à l'inclusion financière de contribuer au développement économique du pays. Ça, de manière générale. Maintenant, il y a deux aspects ou deux piliers très importants. Il y a la partie offre et il y a la partie demande. La partie offre, il y a toute la volonté de mettre en place l'offre financière qui va permettre justement d'accompagner cette volonté d'inclusion financière. Maintenant, pour la partie demande, c'est là où intervient l'éducation financière. Et l'éducation financière, justement, essaie d'adresser ou de faire évoluer justement la partie demande en agissant directement sur l'individu. J'ai bien dit qu'il soit particulier ou entrepreneur. Maintenant, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on lui donne en termes d'éducation financière? Et je précise que l'éducation financière devrait justement être incluse dans tous les programmes d'accompagnement de l'entreprise, de manière générale. Monsieur a parlé tout à l'heure du développement des compétences techniques. Oui. Justement, il y a des programmes où on développe les compétences techniques de l'entrepreneur sans lui donner les compétences financières. Et quelles sont les compétences financières d'un entrepreneur? Ce n'est pas uniquement l'accès au financement. C'est justement, on a vu des cas où les gens ne savent pas utiliser les financements reçus. Ils ont des problèmes de gestion. Ils ne savent pas d'abord quel financement, pour quelle activité ou pour quelle étape d'entreprise ou quel besoin.
Vous vous rappelez d'un ministre qui confondait chiffre d'affaires et bénéfices? Non mais il y a un moment. Hein.
J'étais pas encore née.
Ah, non, ah, si, moi je l'ai reçu sur un plateau TV, donc je veux dire. Non mais c'est pas une anecdote ce que je vous dis.
Non, mais
c'est de l'éducation financière, mais
ça,
même au plus haut niveau.
Ça c'est la réalité, effectivement.
Ah, oui.
Et pour revenir à l'étude que nous avons menée, justement, la majorité des entrepreneurs interviewés avaient besoin d'éducation financière de base. Ce ne sont pas les modules évolués, mais juste le basique du basique de l'éducation financière, le compte bancaire, les moyens de paiement, les risques par rapport aux moyens de paiement, la gestion, l'équilibre budgétaire, les gens, avoir des objectifs. On est encore au stade où un entrepreneur, parce que d'abord un entrepreneur, c'est un particulier. Avant d'être entrepreneur, il est d'abord un particulier qui agit dans la société. Et on n'a pas cette culture d'avoir des objectifs financiers, de mettre en place, de suivre le budget régulièrement, de mettre en place l'épargne, de connaître les risques de la vie, de s'en prémunir, de se couvrir à travers une assurance, par exemple. Donc, si on ne l'a pas en tant qu'individu, comment pourrait-on l'avoir en tant qu'entrepreneur et justement chercher à être transparent, à couvrir son entreprise?
J'ai deux questions, justement. Alors, dans cette émission, depuis un moment, on parle beaucoup d'immobilier, on a fait un calcul arithmétique où on dit aux gens qui n'ont pas de cash, dans le marché de l'immobilier, que ça sert à rien d'acheter une maison, ça vous coûte beaucoup plus cher que si vous la louez. Mais la culture et le manque d'éducation financière fait que aujourd'hui, ça, le marché, moi je pense que c'est grâce à ça que le marché immobilier ne se casse pas complètement la gueule. Sinon, ça serait de la location pour tout le monde si les gens faisaient juste un calcul très simple. Mais ça, c'est d'une part. Deuxième part, c'est le poids de l'informel. Là, je pose aussi la question au Sénégal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de faire de l'inclusion financière, on essaye d'éduquer les gens financièrement. Ok, on peut leur dire qu'il faut être transparent. Mais quand on a une grande partie de travail informel versus formel, qui est le gros problème du Maroc aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un moment, soit on dit les choses telles qu'elles sont, soit c'est pas la peine, soit on regarde les choses en face, et on a eu des exemples frappants de recul du gouvernement par rapport à certaines populations qui n'ont pas envie d'être transparentes et qui l'ont bien affiché. Comment on fait ? Comment on amène les gens à leur dire, mais tenez, venez, parce que finalement, être dans l'inclusion financière, c'est le premier pas dans le formel. C'est le premier pas dans la participation au pays à travers l'impôt, mais aussi de tout autre, à travers l'épargne également. Comment on fait pour lutter contre ça? Est-ce qu'il faut pas, au-delà de l'éducation, il faut pas que ça soit coercitif et qu'à un moment on dise, ça y est, l'informel, on s'y attaque de la manière la plus directe possible. Et j'imagine que lui, en tant qu'entrepreneur et start-upper, il doit se poser la question.
Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que ça doit venir d'abord, d'une part, par le consommateur final, qui doit être en mesure d'exiger une preuve de la transaction qu'il a effectuée ou une preuve du service qu'il a reçu. Sinon, par ailleurs, je fais référence, là, pour le coup, à une ancienne vie. Il y a deux idées que j'ai trouvées assez intéressantes. Alors, la première est en Italie. Oui. Pour lutter contre l'informel, alors, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont mis, entre guillemets, une brigade qui allait à la sortie des restaurants, des cafés, etc., et qui contrôlait que chaque personne quittant le café avait bien pris son ticket de caisse. Mmh. Autrement, elle allait avoir une contravention. Une autre idée qui a été mise en place, et celle-là, je l'ai vue au Brésil, que j'ai trouvée très intéressante, c'était les personnes, chaque personne à la fin de l'année ramenait l'ensemble des factures qu'elle avait collectées pour l'ensemble des transactions qu'elle a effectuées, et puis elle avait une réduction d'impôt sur la base de la TVA qu'elle a payée. Mmh. Voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place par l'État pour soutenir le passage de l'informel au formel.
Oui. Mamadou Lamingue.
Oui, oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut y aller, je crois, avec méthode, mais surtout avec beaucoup de patience.
Alors, quand on... la patience, on en a eu, hein, là, ça suffit la patience chez nous.
Dans ce domaine, Faisal, je crois que c'est extrêmement important. Avec méthode, justement, avec méthode, c'est à travers la sensibilisation, c'est à travers l'éducation financière. Mais c'est à travers aussi un certain nombre de dispositifs réglementaires qu'on ne peut pas contourner.
Ils existent.
Je donne un exemple de chez nous. Il y a quelques années, une personne pouvait intégrer certaines institutions de microfinance sans même disposer d'une carte d'identification nationale. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir cette carte d'identification et pour être enregistré dans le bureau d'information sur le crédit, que nous avons d'ailleurs hérité du Maroc. Merci. Alors, aujourd'hui, donc, ça suppose que cette personne maintenant qui veut développer une activité économique et qui veut demander un crédit est obligée d'aller chercher sa carte d'identité nationale. Et si on va plus loin, sur l'affectation ou l'adjudication des marchés, on vous dit, vous êtes obligé d'avoir un INEA. Le INEA, c'est un numéro d'identification au niveau du ministère de l'économie et des finances.
D'accord.
Donc, vous êtes obligé, si vous voulez développer votre activité, gagner des marchés, mais il faut y aller. Donc, voilà un certain nombre de dispositions, moi, qui me semblent nécessaires, mais qu'il faut le faire avec méthode, il faut le faire avec patience. Moi je suis favorable à cela, qu'on se donne tout le temps nécessaire. C'est pas que les autres pays où la part du formel est vraiment, il y a presque plus de formel, mais ils l'ont fait en combien d'années? C'est pendant des siècles et des siècles. C'est-à-dire, il faut pas qu'on oublie aussi notre histoire. Nous avons une histoire. On ne peut pas l'oublier. Et tout cela, si on va en profondeur des raisons et des causes, c'est quand même un fait réel. Et je pense qu'il faut partir de là pour nous donner des circonstances atténuantes.
Amen.
Pédagogiquement, moi je veux parler pédagogiquement par rapport à cette notion d'informel et d'utilisation du cash et de manque de transparence. Je pense qu'il n'y a pas mieux que les exemples. Et montrer justement les risques d'être dans l'informel. Il y a un feu qui éclate, qui prend, par exemple, toute la marchandise, qu'on n'a pas déclaré, qui n'est pas couverte, et voilà toute une activité commerciale, des employés qui vont être au chômage, tous les risques. Et je pense que les séances d'éducation financière, l'importance de ces séances, parce que ce que nous proposons, ce sont des séances participatives où il y a beaucoup d'échanges, où il y a beaucoup d'apprentissage du peer learning à travers les expériences des uns et des autres, permettent justement ces échanges, permettent justement de voir des cas de réussite, mais aussi des cas d'échec. Et à un moment donné, il faut montrer aux gens tout le danger qu'ils encourent à titre personnel et qu'ils font courir à leur activité commerciale en choisissant d'être dans l'informel.
Je suis désolé, je fais pas le pessimiste aujourd'hui, vous savez que je suis un éternel optimiste et on se bat pour ça, mais encore une fois je pense qu'on prend pas la mesure de l'ancrage dans les mentalités. Je vous donne un exemple, ça fait des semaines, des mois, depuis le 2 octobre 2018 plus exactement, où vous savez il y a une loi qui est rentrée en vigueur sur les contrats pour les personnels de ménage, donc là aussi c'est essayer de faire sortir de l'informel, aucun accompagnement n'a été fait par l'État ni le gouvernement, c'est un flop monumental, avec un dispositif réglementaire qui aurait pu changer de manière impactante la société dans ses grandes largeurs et dans sa profondeur. On a des femmes de ménage qui nous appellent et de différents cas et souvent qui nous disent, vous savez, la CNSS, donnez-la-moi. Et vous avez beau lui expliquer que si elle tombe malade, elle pourra être prise en charge, que ça peut avoir un exprès. Et je pense qu'on prend pas encore. Je suis désolé, je dis, c'est peut-être une anecdote. Comprends pas la mesure de l'ancrage auprès de certaines populations de la relation qu'on peut avoir avec.
C'est pas pour rien
financière.
Que l'éducation financière doit commencer très tôt. Ça commence très tôt à l'école.
Accompagné avec des mesures. Si on vous dit à l'école, ah mais c'est très bien, c'est comme ça, mais que vous allez, vous traversez la route et vous allez à Dar el Maarif, vous voyez quelqu'un qui ne paye pas d'impôts sur des millions qu'il fait. C'est comme le feu rouge, hein, c'est pareil.
Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, il est 11h10 et si vous venez de nous rejoindre, eh bien, sachez que c'est une émission un peu spéciale qu'on a divisée en deux parties aujourd'hui, qui s'inscrit dans le cadre du Forum international de la très petite entreprise qui a lieu aujourd'hui toute la journée. Bah, ça commence finalement chez nous, hein, ce matin, et puis cet après-midi, il y aura d'autres discussions, qui nous permettront de, bah, ce qu'on a commencé à faire depuis ce matin, à savoir parler d'inclusion financière, parler de digitalisation, essayer de faire le lien entre tout ça, et puis surtout de parler vrai, de trouver des solutions, de faire des constats. On en a eu beaucoup ce matin, c'était extrêmement intéressant, notamment en ayant un benchmark sur le Sénégal, ça nous permet de prendre du recul, hein, et de mettre des chiffres en perspective, de savoir où on en est, nous, au Maroc, de voir que l'inclusion financière au Sénégal est bien loin derrière, qu'il y a des choses qui sont faites, qu'il y a des exemples à prendre en considération, que le Sénégal aussi a à prendre des exemples du Maroc, mais il y a aussi de vraies questions à poser, c'est en tout cas ce qui aura lieu cet après-midi. Avec moi sur le plateau pour cette deuxième partie de l'émission, Sizaka Lianachid, chef de service de l'inclusion financière au sein du ministère des Finances. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de l'émission. C'est Khalil Mezaz, directeur de la relation clientèle au sein de la CNSS. Comment ça va?
Merci.
Ça va bien? Toute la CNSS, moi qui est passé ici. Voilà, on passe le bonjour. Et en tout cas, pour ils répondent toujours présents et ça, on les remercie. Merci. Puis merci. Ça aussi, en termes de digitalisation, il faut quand même dire que la CNSS a fait une... La CNSS d'il y a 15 ans, c'est pas la CNSS qu'on a maintenant. Hein. Non, mais il faut le dire. Voilà. Donc il y a des transformations qui se font et on en est très heureux. Amel Chelif Hawad qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Amel?
Très bien. Et merci beaucoup. Merci Faisal, émission Les Experts Atlantiques. Merci Radio Atlantique. Pour vos soutiens, pour la 5e édition du Forum international de la TPE qui démarre, c'est un matinal, superbe matinal de Radio Atlantique et l'émission Les Experts Atlantiques, et elle poursuivra ses thématiques, son débat.
Ça sera cet
centre,
après-midi.
Voilà. À 14h au centre Mohamed VI de soutien à la microfinance solidaire. Et là, soyez nombreux. Merci.
Mais j'aurai le plaisir d'animer les débats cet après-midi. Alors on va pas qu'on continuera ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors on va prendre, je prendrai la question après. Ouais, Jawed, je vous garde au chaud. Je vais juste refaire le lien avec Zakaria Yanachid et Khalil Mezaz qui viennent d'arriver. Amel, tu étais là, tu as écouté tout le début de l'émission. Et c'est vrai qu'on a fait un point en termes d'inclusion financière. Hein, et comme Sinachid, vous êtes en plein dedans, c'est votre boulot. Hein, chef de service. Je ne savais même pas que ça existait, moi, le chef de service d'inclusion financière au sein du ministère des Finances. Mais c'est vrai que c'est important de le souligner quand même.
C'est important, Faisal, mais tout d'abord, permettez-moi de remercier Hayat, de remercier Amel de l'invitation, aussi d'Atlantique pour cette d'aborder ce sujet aussi important. Donc, pour revenir, c'est vrai, l'inclusion financière, elle était toujours une priorité, mais maintenant, ces dernières années, on constate qu'il y a vraiment une montée en puissance de l'inclusion financière. C'est pas parce qu'on s'intéresse pour cela, mais derrière, il y a
une montée en puissance du sujet. Hein.
Du sujet, bien sûr. On est encore loin, mais peut-être on va revenir par la suite en détail sur les chiffres et sur d'expliquer d'ailleurs le constat et d'expliquer les perspectives et quelles opportunités et potentialités on a pour améliorer l'inclusion financière au Maroc et bâtir sur ce qui est déjà réalisé. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a fait beaucoup de choses que le Maroc, par rapport à la profondeur du secteur financier, la stabilité, l'infrastructure financière, parfois qu'on oublie de rappeler, mais c'est important de le dire, et qu'aujourd'hui, on vise à attaquer un nouveau palier de croissance qui va nous permettre d'attaquer de nouveaux segments, notamment la TPE, et ça tombe bien votre émission, parce que la TPE, elle est parmi les segments prioritaires de la nouvelle stratégie d'inclusion financière, et derrière, il y a un ensemble de mesures, pour débloquer l'inclusion financière et permettre à cette catégorie qui, aujourd'hui, a des difficultés d'accès aux services, justement par rapport à ses caractéristiques déjà intrinsèques, que par rapport à l'offre qu'il faut adapter pour mieux répondre à ses besoins. Peut-être un petit mot pour dire comment on est arrivé là à la stratégie nationale d'inclusion financière. Il faut rappeler, pour la produire, on est parti, déjà c'est un projet qui a été copiloté par le ministère des Finances et la Banque Centrale. Et c'est déjà très important par rapport au benchmark international, parce que dans certains pays, on voit que c'est les banques centrales qui s'y intéressent. Mais au Maroc, on a cette particularité de modèle en ayant un copilotage de la Banque Centrale et du ministère des Finances, ce qui donne en quelque sorte la force. Et derrière, donc, on était dans une approche collaborative, participative. Donc, il y avait l'implication aussi bien des banques, des établissements, des nouveaux établissements de paiement, des assurances, d'autres ministères. Donc, on est vraiment dans une approche participative pour arriver à ce produit qui a défini des segments prioritaires en disant le Maroc, il a réalisé des grands pas en termes de financiarisation. Si je prends un simple exemple, le Maroc, au niveau de capillarité d'agences bancaires, on se situe par exemple, on est à 25 agences par 100 000 habitants. C'est à peu près la même chose au Danemark. Au niveau de capillarité, on a un nombre d'agences qui est assez élevé.
Amel est en train de me regarder avec des grands yeux, mais c'est notre choix de l'ultralibéralisme et du capitalisme sauvage dans lequel on est. Non, mais il faut le Danemark, on n'est pas dans le capitalisme sauvage.
Effectivement, peut-être un deuxième, c'est que il y avait la profondeur aussi en termes de nombre de guichets automatiques et tout. Mais en termes, tout à l'heure, vous avez parlé de Findex et de l'étude qui a été menée, qui a révélé que le Maroc est entre 29-35% après ajustement de taux. Mais ça, c'est un taux au niveau côté demande. C'est-à-dire, on a fait une enquête terrain en posant la question aux gens. C'est pas de la comptabilité du côté de l'offre des banques. Mais c'est un élément qui...
Mais ça, on pourrait l'avoir de toute façon. Il y a le secret bancaire. Donc là, aujourd'hui, là, juste Banque Le Maghreb nous donne quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le taux brut, à savoir le nombre de comptes ouverts dans les livres, comme on dit, selon la formule consacrée des banques, versus la population. Et l'ensemble de la population. Donc c'est un chiffre qui est très parlant.
C'est une division des doubles comptes, les personnes qui ont deux, trois comptes.
Les comptes entreprises,
c'est vrai. Mais au-delà du chiffre en lui-même, ce qui est important, c'est comment on peut bâtir sur ces constats pour définir et attaquer de nouveaux segments. Je m'explique. Aujourd'hui, on a trouvé que, par exemple, dans les villes, dans la zone urbaine, on a un taux d'inclusion financière qui est assez important. Mais il y a encore beaucoup à faire au niveau rural. C'est pas parce que les banques ou le secteur financier ne s'adressent pas, mais c'est parce que le modèle classique en lui-même, il a atteint ses limites. D'où d'ailleurs, on parlait justement de la digitalisation. C'est comment on peut bâtir sur tout ce qui est mobile payments, sur tout ce qui est nouveau modèle pour permettre à ces catégories qui sont éloignées d'accéder à des services financiers. Et là, lorsqu'on parle de services financiers, c'est pas uniquement le bancaire. Il faut que ça soit élargi pour introduire aussi bien l'assurance. On n'en parle pas de la micro-assurance, qui est un sujet aussi important. La microfinance qui a très bien développé ces dernières années, mais il y a encore un potentiel. Au Maroc, on est à 3% à peu près de la population et on a un potentiel de 15% si on le compare au benchmark. Donc il y a aussi un gisement important à exploiter pour créer, je dirais, ce qu'on a appelé dans la stratégie, des modèles, un axe, nouveau modèle alternatif d'accès ou, je dirais, pour servir de nouveaux services financiers aux ménages et aux entreprises.
Alors, on viendra, parce que là, on parle vraiment de l'inclusion financière, de toute l'opportunité que ça peut donner, etc. Moi, j'ai d'autres raisonnements derrière. On en a parlé, si vous avez écouté l'émission, justement, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit dans le cadre de l'informel, et ce genre de choses est extrêmement important à appréhender. On ne peut pas parler de ça en faisant abstraction de la fiscalité, du marché informel et des deux mondes qui s'affrontent dans l'économie marocaine et qui, on va dire, la balance n'est pas là, l'équilibre n'est pas là et ça, on a l'impression qu'on est arrivé à un point où c'est là où on parle de nouveaux modèles de développement économique, où on ne sait pas comment ces deux mondes-là qui cohabitent peuvent contribuer à faire monter tout le pays ensemble. Et s'il y a bien quelqu'un qui sait ce que c'est que de devoir appréhender l'informel et la sous-déclaration, la non-déclaration, le travail non déclaré, c'est bien la CNSS. Même s'il y a eu beaucoup d'avancées en la matière, on est encore loin. On a eu les chiffres, rien que la semaine dernière, on avait les gens de la CNSS qui étaient là, on en a beaucoup parlé, on a vu le montant moyen de la pension qui est servie, c'est 1900 dirhams, 85% de la déclaration au niveau de la CNSS, ce sont des salaires de moins de 6000 dirhams. Donc quand on entend ces chiffres-là, et on se l'est dit la semaine dernière, j'ai dit si c'était les vrais chiffres en termes de déclaration, on n'aurait pas ce PIB, on n'aurait pas cette consommation, c'est pas possible. Voilà, il y a un moment moment, c'est de l'arithmétique pure et simple.
Voilà. Donc, merci Monsieur Faisal pour cette invitation. Merci Madame Amel pour l'invitation. Donc, je veux donner quelques chiffres concernant surtout la bancarisation au sein de la CNSS. Oui. La CNSS, on a à peu près une clientèle de vers 6 millions des assurés et des bénéficiaires. Mmh. 3,2 millions des assurés actifs et 2,8 les, des bénéficiaires.
Les pensions servies, les ayants droit, etc. Donc,
mais tout ce qui est étonnant par rapport aux chiffres avancés ce matin, on est à 98%, même à 80%, parfois quelques prestations, on atteint 99% de bancarisation de nos assurés. Donc quand même, on a un chiffre très important au sein de la CNSS. Je donne un chiffre comme ça pour, pour concernant la sous-déclaration, oui, il existe, mais on a pu faire adhérer au système à travers des actions commerciales, à travers le corps des inspecteurs du contrôle de la CNSS.
Ce que je dis, et là par contre dans la démarche de la CNSS, il vaut mieux aujourd'hui, vu d'où on vient, il vaut mieux de la sous-déclaration que de la non-déclaration. Voilà, c'est déjà ça. Non mais c'est vrai.
On était à
je sais que vous n'aimez pas qu'on dise ça, mais c'est une réalité. Quoi.
On était à 1 million en 2005. Oui. Maintenant, on est à 3,2 millions de salariés. Effectivement, dans le cadre de l'informel, de la société active selon les HCP, nous échappe quand même quelques 800 millions de salariés. 800 000, pardon, des salariés. Mm-hmm. Mais même la sous-déclaration et la non-déclaration, elle est gérée au sein de la CNSS avec une stratégie très scientifique, avec des planifications. On est en train de se rattraper pour évacuer ce problème.
Alors, on parlera du rôle de la... Parce que, pour moi, il y a un acteur central qui peut accélérer l'inclusion financière et l'informel. C'est la CNSS. Mais la CNSS, elle est soumise aux politiques et aux décrets qu'on attend sur beaucoup de choses. Hein, parce que la CNSS, vous êtes un bras armé, technique, on vous dit d'appuyer sur le bouton. On vous dit d'appuyer sur le bouton, vous appuyez sur le bouton. Voilà, on vous dit, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton, vous n'appuyez pas sur le bouton. 11h22, on a Jawed au téléphone qui voulait poser une question. Bonjour.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Merci pour votre sujet. Moi, je tiens plus pour le financement des entreprises.
Oui.
Je pense que, premièrement, pour le microcrédit, ça reste un financement, mais uniquement qui ne permet pas de mettre des points de croissance au niveau économique. C'est-à-dire parce que le taux d'échec est très important.
Vous parlez du microcrédit ?
Exactement. Ça ne permet pas de donner un point de croissance assez important. Après, je parle pour les banques. Je pense que la banque au Maroc est devenue plus une obligation pour avoir un compte qu'un partenaire pour aider les entreprises à se financer. Et actuellement, la plupart des entreprises au Maroc, je parle parce qu'en tant que directeur de société, j'avais des responsabilités en France, et actuellement je suis au Maroc, et je fais un petit peu la comparaison entre les deux. En France, tu as vu tout le lundi, tout le mardi, le courrier qui arrive avec des chèques, des paiements, on n'a vu aucune relance. Et actuellement, ici au Maroc, le directeur il est en train de faire la route pour chercher les chèques, pour chercher les financements, donc pour chercher ce qu'on appelle les créances. Et je pense que la première chose pour éviter que les sociétés demandent de financement pour le fonds de roulement, c'est de appliquer la loi, tout simplement. Et ceux qui ne sont pas solvables, qu'ils dégagent du marché. Comment peut-on accepter que des entreprises marocaines cotées en bourse qui ne payent pas les fournisseurs ? C'est du n'importe quoi.
Je suis d'accord, totalement. Et l'État aussi, bon, en termes de créances.
Sur la route, on entend telle et telle société, plus 7, plus 8, et au fond, tu te dis, mais comment ils ne me payent pas et comment ils sont en bourse? Je veux savoir comment cette action est cotée, parce que ça dépasse toute logique.
Ah bah. Merci beaucoup pour cette question, elle est claire, directe et précise. Alors moi, je vous donne la parole, mais juste par rapport à la microfinance, je vous dis sincèrement, n'attendez pas de la microfinance qu'aujourd'hui elle vous donne un point de croissance ou deux. C'est déjà un système qui permet justement de faire adhérer toute une population qui n'avait accès à rien, avec des niveaux de moyens qui sont tellement tellement loin que on n'est pas là pour que ça donne. Peut-être que dans plusieurs générations, oui, ça donnera des points de croissance, mais je pense qu'on n'est pas là rapport à ça.
Si vous permettez,
allez-y.
Peut-être un point sur la microfinance. Il est très important de dire que la microfinance est un levier pour faire adhérer oui. une population. Et il faut rappeler que dernièrement, il y a eu une importante réforme. On a augmenté le plafond de microfinance de 50 000 à 150 000 dirhams pour justement permettre à
ces TPE... Ça n'avait pas commencé à 10 000 au tout début, non ? Non, c'était toujours 50 000
C'était 50 000 au début. Et là, on parle d'un nouveau plafond de 150 000 pour justement servir cette catégorie de TPE, de très petites entreprises, qui n'est pas servie par les banques et qui n'est pas servie par la microfinance. Elle est tellement petite pour les banques pour faire un dossier et tout, et elle est peut-être assez grande pour la microfinance. Donc là, c'est une réforme pour desservir justement cette catégorie, je dirais, d'entreprises qui constituent la masse des entreprises marocaines.
Amel, par rapport à ce qu'a dit Jawed.
Oui, tout à fait. J'en conviens avec lui. C'est que effectivement, ce nouveau justement dispositif de 150 000, effectivement, parce qu'on avait toujours ces toutes petites entreprises entre la TPE et entre la micro et tout ça, et qui pour aller à la banque, on le sait très bien, la banque déjà des fois pour la TPE structurée et tout ça, les garanties, etc. Bon, bien sûr, il y a toujours la CCG qui est là que les banques jamais n'en parlent. Quand on va à une banque demander un crédit, on vous dit allez la garantie, un terrain, le fonds de commerce, mais on vous dit jamais que la CCG, elle peut aussi se prendre garantie tout ça avec toute cette panoplie de produits et services. Donc on a toujours, c'est pour ça qu'on a toujours invité la CCG à nos forums et tout ça pour rappeler ça. Les banques, je sais pas pourquoi ils veulent jamais le dire quand on va chez eux. D'ailleurs un jour moi j'ai dit à César Reni, écoutez,
Michel Serrani qui est le patron de la CCG.
Tout à fait, le guide de la CCG avec les produits et services, il faut le distribuer aux banques et à toutes les entreprises quand ils vont aller chercher un crédit. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant pour la...
Les délais de paiement, parce que ça aussi c'est un sujet qui revient extrêmement souvent, et bon, on est dans l'inclusion financière, mais aussi les délais de paiement, d'avoir, comme on dit aux États-Unis, a responsive market, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, il y a de l'économie, il y a des transactions. Quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez décider de vendre votre société le lundi, le mercredi ou le jeudi, vous pouvez avoir déjà l'argent dans votre compte correspondant à la vente de votre société. Là, vous avez des gens, des PME, des TPE, qui font des prestations et qui doivent attendre 6 mois ou 7 mois pour se faire payer. C'est le marché qui n'est pas réactif. Et donc, l'argent ne tourne pas. Donc, ce qui a un impact sur les garanties, ça a un impact sur le service bancaire. Tout ça est extrêmement lié. Et ça, on a l'impression qu'on ne sait pas quoi faire.
On est dans un cercle, on est dans un cercle vicieux. Et c'est vrai que, au ministère des Finances, ils ont justement, je crois, lancé une loi ou une réforme ou un décret pour...
Non, mais ne parlez pas de la loi de paiement.
Pour ralentir, pour permettre, pour les délais de paiement, mais que ce soit au niveau État ou privé, rien n'a changé. C'est-à-dire cette histoire de 60 jours ou 30 jours ou 40 jours ou 1000 jours, nous on est encore
là. Mais pire, c'est une double peine pour la TPE. C'est une double peine. Vous avez des TPE qui sont redevables, des pénalités fiscalement qui sont considérées comme du chiffre d'affaires sur de l'argent qu'ils n'ont pas encore encaissé. Et à un moment, il faut me dire, qui fait les lois ? Je veux juste comprendre.
Et quand on n'est pas payé, comment allons-nous payer nos impôts ? Comment allons-nous déclarer à la CNSS ? Et voilà. Il n'y a même pas d'échéance, je dirais. Quand on ne paye pas ses impôts, c'est les pénalités, c'est les agios qui montent. Et bon, voilà. Une doléance
peut-être
pour les assises
fiscales. Rapidement, après on va au flash info de 11h30. Allez-y.
Rapidement, il y a un sujet, d'ailleurs on en a parlé au niveau de la stratégie, c'est comment utiliser les comportements, parce qu'il y a aussi un principe de comportement, de changement, je dirais de ligne, pour faire avancer que dans tout l'écosystème, parce que là il y a un écosystème, et dans la stratégie on parle de digitalisation entre déjà l'État et les usagers. Donc il y a un effort qui est fait par l'ensemble des organes publics, que ce soit la CNSS, que ce soit la DG, pour, je dirais, faciliter les paiements. Et aussi, tout à l'heure, vous avez parlé d'éducation financière.
Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, il est 11h38 avec moi sur le plateau Amel Sharif Hawat qui est avec nous aujourd'hui du Forum international de la TPE et Zakaria Nashid, chef de service de l'inclusion financière au sein du ministère des Finances, et monsieur Khalil Mazez, directeur de l'oration clientèle au sein de la CNSS. Je vous ai coupé tout à l'heure, c'est vrai que c'était important de continuer sur le sujet qu'on avait abordé.
Justement, c'est par rapport à la microcrédit et la réforme qui a été engagée, et de dire que le relèvement de plafond, il constitue une opportunité idée de servir une catégorie qui était jusque-là moins desservie par le secteur financier. Et donc là, c'est une nouvelle offre de services qui s'ouvre pour permettre et accompagner la TPE qui constitue, comme vous le savez, on le sait tous, hein, c'est la plus grande majorité d'entreprises marocaines.
Si vous permettez, Monsieur Faisal,
oui,
je veux dire des bonnes choses quand même concernant.
Non, mais les gens n'ont pas entendu la discussion qu'on a eue pendant le Flash Info. Vous inquiétez pas. Je suis un peu énervé, pas contre eux, hein, mais contre beaucoup de choses. Voilà, des politiques ont fait des choses très bien, et puis on empêche d'avancer les choses par des retours en arrière sur certains points.
Si vous permettez, je veux parler sur l'offre et services ou la digitale de la CNSS. Donc surtout pour notamment pour les TPE. Donc comme vous le savez, la CNSS a commencé la digitalisation depuis 2003.
Oui.
Je vais donner quelques exemples. Je vous prendrai le portail d'Amalcom de la CNSS dédié aux entreprises, notamment les TPE. Donc il a subi une refonte en 2017. Donc, il offre plusieurs services aux entreprises affiliées à la CNSS. Donc, notamment la télédéclaration et le paiement des cotisations en ligne. Donc, je vais vous donner quelques chiffres, M. Faisal, si vous permettez. On est à 81% des entreprises affiliées à la CNSS qui sont adhérées à ce portail.
Oui.
Ils sont à l'origine de plus de 98% de la masse salariale déclarée à la CNSS. Pour les TPE, on est plus de 90% des TPE adhérés à la CNSS, ils sont sur le portail d'Amalcom. Donc c'est une plateforme qui offre aux TPE un service hautement sécurisé et simple. Donc une nécessité pour les TPE ne nécessite ni une expertise ni un investissement. C'est un mode simple.
Surtout pour la TPE, il n'y a pas besoin d'envoyer un coursier, ni un comptable, ni quoi que ce soit.
C'est simple.
Etc., comme c'était le cas avant. Mais c'est vrai.
On gérait, M. Faisal, au sein de la CNSS, plus de 6 millions de pages par an. Avec ce système, on est
avec
passé à...
Avec toutes les erreurs qu'il peut y avoir dans la saisie.
Donc, pour les TPE, on a un mode UEFI, échange formalisé, informatisé des formulaires des données. Donc ce formulaire, il est simple. Donc le TPE, il est adhéré à la Damalcom. Il a la possibilité d'immatriculer les salariés. Il a la possibilité de déclarer, bien sûr, de télépayer, de voir la situation comptable vis-à-vis de la CNSS en temps réel, de faire l'affiliation, l'adhésion en ligne, de gérer le compte. Dialogue. Donc pour ça, pour faire les démarches de la CNSS, le TPE, il a besoin de 5 à 10 minutes par mois. Tout simplement, il faut faire les démarches à la CNSS. Il n'a pas besoin d'une expert ni d'un comptable pour faire les démarches à la CNSS.
Alors ça, c'est pour la digitalisation. Mais moi, je voulais faire le lien tout à l'heure, hein, justement, Sénachide, parce que aujourd'hui, les services qu'offre la CNSS, la couverture santé, le droit à la retraite, bon, même si elle est plafonnée, mais ça, c'est une autre histoire, c'est aussi un levier d'inclusion financière. Et là, aujourd'hui, je prends l'exemple encore une fois où je râle, mais bon, je râle pour de bonnes raisons. C'est la loi sur le travail des travailleurs de maison qui est rentrée en vigueur dans le silence le plus total, sans aucun accompagnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont hors la loi et qui le savent pas et personne n'en a rien à faire. Mais bon, il y a toute une partie de la population qui est cette population vulnérable, qui travaille, qui est dans l'informel. On le sait, et là on peut la quantifier à travers des études, etc. Qu'on pourrait ramener dans l'inclusion financière, qu'on pourrait ramener... Et là, il y a une résistance monumentale, et ça je le sais maintenant de sources sûres à l'intérieur. Avant je croyais que c'était un retard technique, mais là la CNSS est prête pour la couverture, et aussi la couverture d'autres populations... Et ben voilà, et on a l'impression qu'on parle de stratégie, mais qu'on ne veut pas que... Parce que là, vraiment, ça serait... Mais d'un coup, on pourrait faire rentrer, alors je dis pas d'un coup, mais au moins, d'une grande partie de la population qui pourrait être inclue financièrement.
200 000 à peu près.
Mais ouais, 200 000, et puis c'est pas rien. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup plus, hein. Ça c'est une estimation. Et là, c'est un levier, la couverture santé universelle.
Je te remercie, c'est Faisal. Hein. C'est justement, il y a une connexion directe. Hein, parce que là, lorsqu'on parle de la couverture sociale, que ça soit l'assurance maladie obligatoire, que ça soit la pension de retraite, ça permet d'intégrer, je dirais, d'une manière indirecte. Et là, il y a, Sekhali, il va me corriger peut-être, les décrets, les derniers textes d'application pour les indépendants, justement pour faire intégrer ces gens qui n'ont pas de revenus réguliers. Et ça a un rôle très très important à jouer. Si on prend le benchmark international et là où l'inclusion financière elle a vraiment démarré et ça crée une opportunité, l'Inde, à travers le fameux produit Aadhaar, qui est la distribution, je dirais, des aides publiques directes. Donc il y a une carte, on ouvre un compte bancaire et ça permet, je dirais, de ramener une certaine frange de la population qui n'a pas les moyens suffisants pour ouvrir un compte, pour accéder à des services financiers. Et ça permet de faire le premier pas, je dirais, d'intégration du format. Parce que là, ce qui est important, c'est qu'on fait de l'éducation financière indirectement.
Ben oui.
Le fait d'avoir une carte, le fait de transférer des services financiers, le fait de faire des transferts d'argent. Là, c'est très important. Et toujours, là, c'est, vous l'avez bien dit, c'est Faisal, peut-être dans la première séquence, c'est un écosystème qu'il y a lieu de construire. Et lorsqu'on parle d'un écosystème, il y a côté les institutions publiques, il y a côté les opérateurs privés, il y a l'État, il y a tout un dispositif à mettre en place. Et ce qu'on trouve derrière les modèles qui se sont développés à l'international, le Kenya ou l'inclusion financière, aussi a démarré à travers le M-Pesa, le digital, il a joué un rôle accélérateur pour faire des pas et des avancées par rapport au modèle classique d'agence bancaire classique. Et là, c'est tout un système avec la couverture sociale, avec les services financiers des établissements de paiement qui vont réduire les coûts de transfert. Parce que si on veut aujourd'hui faire un transfert d'argent d'une banque normale, ça va être plus coûteux. Si je fais un transfert, par exemple au Kenya, ça coûte 0 dirham, le fait de transférer d'un portable à un autre. Donc il y a tous des mécanismes qui sont en cours de mise en place. Et là, justement, la stratégie donc, est laissée en train, je dirais, de défricher le terrain, hein, d'aller vers ces nouveaux modèles qui ont constitué un levier d'intégration et de ramener une frange de la population. Le diagnostic, il en est sorti, la TPE comme une cible prioritaire, mais aussi il y a d'autres cibles, les jeunes, les femmes et le rural, le monde rural. Donc ce sont quatre cibles prioritaires et on trouve qu'il y a des actions transverses. Bien sûr, il y a d'autres actions, c'est pas uniquement avec le digital. Il faut développer par exemple le service d'information. Par exemple, une TPE, s'il veut accéder à un crédit, il y a le crédit bureau qui donne une cotation, une évaluation, une information financière sur le track record, l'historique de la TPE pour permettre à ce financier d'intégrer, je dirais, les services financiers. Mais une chose très importante...
Moi, je voulais juste le lien avec la CNSS, parce qu'on parle, de souvent du bâton, mais pas de la carotte. Hein, c'est-à-dire qu'OK, il faut que les gens soient dans le système, il faut un certain nombre de choses, bien évidemment. Mais là, auto-entrepreneur, on attendait la couverture sociale. Toujours rien.
Depuis 2015.
On rate le coche. Encore une fois. On a l'impression. Parce que bon, on dit que c'est un succès. Mais maintenant, il faut voir les niveaux des déclarations. Hein, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup d'inscriptions, mais il y a beaucoup de radiations. Et puis, il faut voir le niveau de déclaration aussi qu'il y a en termes de
transporteurs. Je pense qu'on est à 60 000 inscriptions.
Je pense 60 000. Ouais, ouais. Mais sur les 60 000,
on est à 100 000. On est à 100 000 inscrits. Mais encore faut-il, comme dit Faisal, dans les 100 000, combien déclarent? Combien sont réellement en activité? Parce que je vais vous dire une chose, et la rappeler, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que nous avons des personnes qui se sont inscrites dans l'auto-entrepreneur sans avoir une activité économique. Donc l'auto-entrepreneur, c'est un statut, ce n'est pas un programme. Donc c'est un statut comme SARL, etc. Donc c'est ça ce qu'il faut rappeler et continuer à sensibiliser. Donc dans les 100 000, réellement, combien nous en avons? La dernière caravane, nous avons invité la CNSS qui nous a justement parlé de la couverture pour le temps.
Ils sont prêts. Hein.
Vous êtes prêts, mais justement. Et là, on rappelle encore, c'est pour quand l'opérationnalisation? Alors, comment allons-nous encore encourager? Parce que c'est un super statut, segment, et nous avons beaucoup de jeunes. Le projet, il est excellent et tout le monde y adhère. Mais maintenant, si le petit plombier, les auto-entrepreneurs qui travaillent manuellement...
Qui ne payait jamais d'impôts, qui en a dit, même si c'est tout petit, ce qui a payé vraiment, il faut le dire, ce qui est tout petit, on va lui dire, OK, tu vas payer des impôts, il va dire, OK, mais...
La contrepartie.
Oui, c'est quoi? Ben non. Voilà. Bon, alors on va dire, bien sûr, l'impôt, tout le monde se doit de le payer, bien évidemment. Mais lorsqu'on est dans une stratégie d'inclusion et de ramener le formel, il y a un moment, il faut bien qu'il y ait une carotte quelque part, non? Je sais pas.
Moi, si tu permets, Faisal, je voudrais juste, par rapport à la CNSS, c'est qu'effectivement... au Maroc, on dispose effectivement d'un potentiel prometteur. Donc, en matière de paiement téléphonique, paiement électronique, inclusion. Mais maintenant, et moi, j'ai une question, et c'est justement l'objectif de notre forum, c'est l'accès. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas accès à l'inclusion financière et digitale. Donc, tout cela est beau. Tout cela, c'est bien, tous ces dispositifs, toutes ces lois, toutes ces réformes. Mais l'accès aux technologies numériques, il reste quand même faible. Damancom, les personnes qui n'ont pas accès, les petits commerçants, les petits micro-entreprises qui n'ont pas accès à l'Internet, qui n'ont pas une formation, qui sont analphabètes sur le plan technologique. Comment ils vont utiliser Damancom? Comment ils vont rentrer dans le système? La même chose pour les déclarations fiscales. Donc c'est ça la question que nous nous posons. Et comment l'État, vous avez mis en place un certain nombre d'outils, de choses importantes pour les gens qui ont accès, mais les autres qui n'ont pas accès, pas seulement à la connexion, mais comment utiliser l'Internet? Est-ce qu'il y a des services d'accompagnement et tout ça?
Merci Madame Amel pour cette question. La seule condition, c'est l'accès à l'Internet. La seule condition. Donc, je pense au niveau du Maroc, on a quand même un taux de couverture.
On avance bien.
Acceptable.
Sur la région, on est très bon.
On est très bon.
Tout à fait. Sur la région.
Par contre, pour la formation, pour l'accompagnement, la CNSS, elle est prête. Je vais vous donner un chiffre concret. On a enregistré plus de 80 000 entreprises qui ont été nouvellement adhérées au portail d'Amalcom durant l'année 2018. Mmh. 80 000. Dans les 80 000, on est à un taux d'utilisation des portails d'Amalcom à 98%. Donc, c'est grâce à l'accompagnement que fait la CNSS au niveau de leur centre d'appel. On utilise les réseaux sociaux, on utilise YouTube, on utilise les chargés de clientèle de la CNSS. Donc, la CNSS, on est prêt à accompagner les TPE jusqu'à l'utilisation à 100% du portail d'Amalcom. Ils trouvent leur intérêt. Je donne un exemple. Une entreprise, s'il veut avoir la situation comptable vis-à-vis de la CNSS, il doit se déplacer à l'agence pour avoir cette situation. Il faire la demande et attendre le lendemain pour récupérer la situation. Maintenant, à travers le portail d'Amalcom, elle a la situation en temps réel. Donc, ils trouvent leur intérêt eux-mêmes. Donc, je ne pense pas qu'on a un problème au niveau de la CNSS sur l'utilisation et l'accompagnement des services en ligne du portail.
Alors, question, et là, c'est aussi la question qu'on posera cet après-midi, hein, parce que c'est extrêmement important, et je l'ai posée en cette première partie d'émission, c'est cette inclusion financière, elle a plusieurs... cette non-inclusion financière. Alors, vous avez dû classifier, hein, il y a des segments. Il y a les gens qui n'y ont pas accès, soit parce qu'ils sont dans le rural, soit parce qu'ils n'y ont pas accès tout simplement, soit par analphabétisme, soit par manque de connaissances, soit par non-capillarité du réseau bancaire dans l'endroit où ils se trouvent. Ça, c'est une population. Il y a la population qui est, on va dire quoi, réticente, résistante, banco-résistante, qui n'a pas envie d'être dans le système bancaire. Et là, on peut avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir des raisons de conviction religieuse, il peut y avoir le fait de ne pas vouloir être pisté, référencé, et d'autres, tout simplement, qui resteront ad vitam aeternam dans l'informel, qui n'ont pas envie de payer d'impôts et qui vous disent, droit dans les yeux, moi, les impôts, je les payerai jamais. Vous savez très bien qu'il y en a des comme ça. On a eu l'exemple avec les commerçants qui refusent la transparence. Et là, on n'est pas en train de parler de rural, hein. On est en train de parler d'activités qui ont pignon sur rue, où l'argent ou le cash circule, et où on a dit, on a sorti les dents, on a dit non. On leur a même pas demandé de payer des impôts, on leur a simplement dit de facturer. Donc j'imagine l'impact que ça doit avoir, vous qui êtes au service de l'inclusion financière, d'avoir des choses comme ça sur lesquelles on fait des concessions, et on se dit, mais c'est pas possible, ok, mais Edo, voilà, ma barrienche, et ils veulent pas, et on leur dit rien. Et donc qu'est-ce qu'on fait à côté? Moi, vous savez, dans les experts, on est devenu dingue avec cette histoire. Merci. Nous qui nous tuons depuis des années à essayer. Non mais c'est vrai, on est devenu fou avec cette histoire. On s'est dit super, voilà. Mais après, hop. On sort les dents, hop, tac, ok, pas de problème.
Merci Stéphane pour la question. Déjà, de bien faire la classification.
Ah
et
oui,
de dire il y a les bons, il y a ceux qui sont intégrés.
Oui.
Mais il y a aussi, par exemple, si je prends des offres financières qui ne sont pas adaptées à la nature, je dirais, de la catégorie ciblée. Oui. Et tout à l'heure, on en a parlé, la digitalisation, le comportement, l'éducation financière. Donc c'est un tout, hein. C'est quelque chose qui se construit par palier pour arriver à une finalité intégrée, une intégration complète dans l'écosystème du formel. Vous l'avez bien dit, hein, lorsqu'on va utiliser les nouveaux mécanismes, ils vont réduire le cash. Et en quelque sorte, ça, ça va aider à intégrer une frange de la population à ces services financiers. Vous avez parlé de la finance participative, qui est un nouveau segment du marché qui répond à des nouveaux besoins des consommateurs, des utilisateurs des services financiers. Donc là, de dire la réticence, ce n'est pas une réticence, je dirais, intrinsèque. On a fait le diagnostic et les études, et ça a montré, on a posé la question, pourquoi vous n'avez pas accès, vous n'avez pas un service. Et une bonne partie, il te dit, parce que je n'ai pas assez de sources financières. Donc ça, c'est un premier élément de réponse qui sort de l'enquête FINDEX qu'on a menée. Aussi, je dirais, un deuxième paramètre, c'est l'offre, la nature de l'offre. Est-ce qu'elle est adaptée à leurs besoins? Tout à l'heure, vous avez parlé du coût. Est-ce que les coûts de services financiers permettent de mieux qualifier, je dirais, le risque ou la facturation? Parce que moi, le privé, une banque, c'est une institution privée, elle est là pour faire du cash, pour faire du chiffre. Et donc, sa facturation, elle dépend...
Oui, enfin, elle a aussi un rôle dans l'économie.
Exactement, hein, c'est vrai. Ouais. Mais ça, c'est pour prendre d'une manière très simpliste, je dirais, pour nos chères auditrices et auditeurs, et de dire qu'il faut qu'ils facturent le risque au bon coût, donc pour pouvoir servir cette catégorie. Et là, le rôle qui intervient de tous ces éléments dont on a parlé, la digitalisation, le crédit bureau et d'autres réformes des sûretés immobilières, c'est pour justement aider à réduire ce coût de risque et répondre aux besoins de ces catégories.
Et les gens qui ne veulent pas.
Ça, c'est des comportements personnels parce que aussi, je reviens toujours à l'enquête qu'on a fait, c'est Faisal, c'est que on a trouvé que il y a le crédit informel, les gens ils se prêtent et s'empruntent entre eux parce qu'ils ont plus confiance peut-être. Là, c'est aussi il y a l'effort d'éducation financière et d'adaptation de l'offre. L'offre, il faut qu'elle soit existante. Si les personnes ne souhaitent pas bénéficier de cette offre pour répondre à leurs besoins, ça nécessite plutôt un effort d'éducation, je dirais, et dans le temps, et d'information, et de créer cette relation de confiance. Parce que
on ne parle pas de la même chose. Je vous parle des gens qui veulent rester dans l'informel. Ça, vous parlez de l'accès aux services financiers, qu'on leur fasse comprendre le coût des services financiers, etc. Mais vous savez très bien qu'il y a aussi des montants phénoménaux qui échappent à l'impôt, et les gens ne veulent pas tout simplement être dans le système à cause de ce genre de choses. Ça, on en fait quoi? Est-ce que ça aussi, on s'y attaque ou on s'y attaque pas? Parce que là, quand on parle d'inclusion financière, c'est un gros pan, je pense. C'est un énorme pan.
Je pense, à mon avis, que là, on a fait sur l'inclusion financière. Moi, je parle toujours du côté du volet d'inclusion financière, qui a des ramifications avec d'autres sujets, notamment l'impôt, notamment le paiement des salaires. Mais même lorsqu'on parle des salaires, est-ce que les entreprises payent, je dirais, tout d'une manière par virement? Donc, il y a ça, c'est, je dirais, les sources ou l'origine de l'informel. Déjà, nous, en tant qu'offre de services et d'appui, on essaie de répondre à une question très simple, c'est d'offrir des services financiers qui sont adaptés à ces populations. Là, du côté de la demande, aussi, je pense, il y a un effort à faire pour changer les mindsets, hein, les comportements. Parce que là, on ne peut pas passer du formel, ou plutôt de l'informel au formel du jour au lendemain. C'est des questions qui demandent, déjà vous avez parlé, il faut créer des marchés, il faut créer des opportunités, je dirais, d'accès au marché pour permettre à ces personnes, à ces très petites entreprises, à ces auto-entrepreneurs, d'accéder à des marchés et de se développer. Là, on pourrait faire l'adhésion, je dirais, à tous les services, que ce soit l'impôt, que ce soit la fiscalité, d'une manière générale.
Alors, il nous reste 2 minutes. Amel, tout à l'heure, ça sera la suite du forum. Hein, et puis, on va discuter de quoi?
Alors, la 5e édition du Forum international de la TPE, elle poursuivra. Donc, elle a démarré avec l'émission Les Experts.
Bah, on a fait une espèce de démarrage en live.
Oui, on a parlé des sujets qui nous intéressent, dans les experts.
Hein.
Et avec les partenaires du Forum international de la TPE, ministère des Finances, la CNSS, Maroc PME, en la personne de la start-up qui était là
pour accompagner son projet.
Et la Fondation marocaine de l'éducation. Nous avons d'autres partenaires qui seront avec nous. Nous avons Xavier Rey, directeur région Banque mondiale, ICFI, nous aurons un responsable de la Bird et d'autres banques et partenaires pour parler justement de l'inclusion financière et digitale. La journée, l'après-midi sera modérée bien sûr par notre talentueux animateur, modérateur Faisal Tadlaoui. Et le forum international, c'est justement pour rendre hommage encore une fois, à ces TPE, à ces femmes, à ces hommes qui un jour se sont réveillés, au lieu d'aller chercher du travail, ils se sont dit on va aller créer notre entreprise pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour développer et participer au développement de notre pays. Donc soyons avec ces TPE.
Il y a tous ceux qui disent « Ah, oh, mais toi, t'es chef d'entreprise, ah, t'es tranquille, t'as pas de patron. » Non, une TPE a autant de patrons qu'elle a de clients. Voilà. Alors ça, c'est on va rendre hommage à la TPE. Hein.
Tout à fait. Et le Maroc, il a plus à gagner donc, de la révolution numérique. Et le digital peut vraiment en effet permettre à ces TPE de s'affranchir justement du processus de développement traditionnel pour gagner en productivité. Mais encore une fois, nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin de la compréhension de nos institutionnels.
Et on a besoin d'argent.
Et on a besoin d'argent, bien sûr.
11h59, merci d'avoir été avec
nous. Tout à fait, à 14h30, voilà. C'est au centre Mohamed VI de soutien à la microfinance à Ain Sebaa. Soyez nombreux et merci voilà. Faisal, merci à tous nos partenaires, merci à Radio.
Merci à vous, je vous souhaite un excellent appétit et on se retrouve demain, on est vendredi. Bah, on se retrouve demain, vendredi. À demain.